Un bon boulot. Témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail. Y a-t-il des bons boulots ? Qu'est-ce qui caractérise un bon boulot ou au contraire un sale boulot ? Épanouissement, reconnaissance, insertion sociale, créativité, maîtrise d'un métier, sentiment d'utilité ou bien aliénation, émiettement du travail, perte de sens, management toxique, burn-out, dépression ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Le travail lui-même, ses conditions d'exercice ou les possibilités offertes à une personne de s'y investir et d'y gagner une certaine autonomie ? Le sujet est vaste et délicat quand il s'agit de témoigner. Nous parlerons métier et nous aborderons les raisons pour lesquelles un individu s'épanouit dans son travail. Nous chercherons aussi à comprendre sous quelles conditions un bon boulot pourrait être dévalorisé et devenir parfois un sale boulot. À Paris, Marie exerce comme modiste, puis costumière. Vers 30 ans, elle décide avec son conjoint d'avoir un enfant et d'aller habiter au bord de la mer. Il s'installe à Plouzané, près de Brest. Ses cachets d'intermittent se raréfient. Elle souhaite cependant toujours rester indépendante et avec ce qui se présente sur place, elle développe plusieurs activités qui lui permettent de subvenir à ses besoins. Comme d'habitude, nous allons parler métier, compétences, plaisir et difficultés au travail, mais aussi choix de vie, adaptation à des contextes géographiques et économiques différents. Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors, d'un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter ce que vous faites actuellement, où vous vivez, votre âge, puisque vous avez un parcours assez long?
Donc, j'ai 56 ans. Actuellement, j'ai une boutique atelier où je fais des formations de couture et relooking de meubles, où je prends aussi des commandes et je vends aussi parfois quelques objets que je réalise.
D'accord, ouais. Donc ça c'est à Brest et aujourd'hui, pour comprendre un peu comment vous êtes arrivé à faire ça, on va refaire le parcours depuis le lycée, donc vous avez un bac C, et puis à ce moment-là vous faites une formation de photographe, bon, on va aller un peu vite là, peut-être deux mots sur cette période, formation de photographe et après.
La formation de photographe, c'était un pied dans quelque chose d'entre guillemets sérieux et puis un petit peu le monde artistique, sauf que la formation était plus technique qu'artistique, voilà.
Donc, au lieu de faire la prise de vue, vous avez fait du laboratoire.
Plutôt du laboratoire. Et quand j'ai voulu travailler dans la prise de vue, on trouvait des stages jusqu'au jour où il a fallu payer pour faire un stage. Donc, bien sûr, des stages pas rémunérés au départ. Et après, il a fallu payer pour faire des stages. Donc, j'ai arrêté. Je suis partie un an au Canada.
Voilà. Vous avez bien fait, ouais, d'arrêter. Payer pour faire
payer
la prise de vue.
Payer pour travailler, voilà.
En plus, c'était l'époque de l'argentique, il y a le numérique qui arrive assez rapidement.
Ouais.
Donc, c'était des compétences qui étaient en train de se dévaloriser, peut-être. Donc, vous allez au Canada, et alors, il se passe quoi ?
Et au Canada, c'est la révélation. Je me rends compte que, parallèlement, j'ai toujours fait des activités manuelles et beaucoup de couture, et que ce qui me manque le plus, c'est la couture, et je me rends compte que je connais un bon rayon dessus, donc je décide de rentrer et de devenir costumière.
On peut préciser quand même, là-bas, vous avez fait serveuse, vendeuse, travailler dans un pressing, travailler
au pair. Pour vivre là-bas, j'ai fait plein de petits boulots, serveuse, fille au pair, vendeuse, pressing, bar.
Oui, voilà. Tout ce que font un étranger quand il arrive quelque part.
C'est ça.
Costumière, alors costumière, vous n'êtes pas costumière, donc vous voulez être costumière, c'est quoi la première démarche ?
Je trouve une annonce au Club Med et je passe un entretien, je fais des tests et je suis prise.
Sans aucune formation ?
Sans aucune formation, ils sont basés sur les connaissances qu'on a et pas la formation qu'on avait. Donc c'était ma première expérience comme dans la couture, on va dire, comme costumière.
Comment ils ont évalué vos connaissances ?
On fait des tests, on doit réaliser quelque chose. Et...
Ah oui, ils vous demandent de faire une pièce ou...
Voilà.
D'accord. Donc super, parce que vous voulez être costumière, vous n'avez pas de formation et vous devenez costumière.
Voilà.
Peut-être décrivez quand même un peu l'endroit où vous êtes et la raison pour laquelle vous n'allez pas y rester alors que, a priori, il y a le ciel bleu, il y a le bon boulot, c'est les vacances.
Voilà, en effet, le cadre est idyllique. J'appelais ça la prison dorée parce que les conditions de travail sont Très difficile et peut-être je suis déjà trop vieille malgré mes 25 ans pour supporter ben voilà de pas dormir, de faire que travailler, d'être d'oublier qui on est, d'oublier donc oui. Je fais une saison et je m'arrête.
Peut-être ça demande des précisions quand même, parce que c'est difficile à imaginer. Vous êtes au Club Med en Turquie.
Oui.
Et ils vous demandent de travailler plus de 12 heures par jour, tous les jours.
Oui, tous les jours. On a alors en tant que costumière, on a un job à faire, des costumes à réaliser, et on s'arrête quand c'est terminé. Donc les deux premiers mois, j'ai dû dormir un quart d'heure, 20 minutes par jour.
C'est vrai?
Oui. Parce qu'il faut faire le travail, puis il faut aller accueillir les gens, puis il faut manger avec les gens, puis il faut faire les activités, enfin bon, tout un tas de trucs, il faut avoir la santé. Donc quand on est très jeune, ça va, quand on a envie de faire la fête, ça va. Quoi, quand, en tant que costumière, ben, on ne la fait pas beaucoup les deux premiers mois, c'est sûr.
On n'a pas le temps de faire la fête, il n'y a pas intérêt même d'ailleurs.
Et voilà, et tout ça pour un SMIC londonien.
Londonien, excusez, ouais, qui n'ont pas les mêmes lois du travail. Ouais.
Oui, parce qu'après, je n'avais pas la sécurité sociale puisque j'avais un contrat de travail anglais.
Ah, en plus, ce n'est pas une plaisanterie. Ouais,
non,
d'accord.
Pas du tout.
Oui, on est sous le droit du travail anglais. Ouais. En France, il y a encore quelques restes sur le droit du travail. Ceci étant, vous avez appris beaucoup, j'imagine, à travailler comme une brute, faire des costumes.
Voilà.
Et sortie du Club Med, donc on était au Club Med, là. Vous faites un bilan de compétences. Ouais.
Je fais un bilan de compétences et parce que je me rends compte que quand même, ou je crois, je ne sais pas si je me rends compte ou si je crois, que ça serait bien que j'ai une formation. Donc, je demande à faire deux formations et je tombe sur une formation de modiste, quelque chose que j'avais vraiment envie de faire, mais où je ne m'étais jamais autorisée parce que je me suis dit, on ne peut pas gagner sa vie en faisant des chapeaux. Ça n'est, plus personne porte de chapeaux.
Il faut préciser, maudit, c'est que des chapeaux.
Maudit, c'est que des chapeaux, oui, oui, oui. Et parallèlement, donc je fais une demande pour les deux formations et je n'obtiens que la formation de maudit, pas la formation de couturière. Ceci dit, j'en ai pas trop besoin de la formation couturière, mais je trouve tout de suite un stage dans le cadre de ma formation chez Manuel Ungaro qui par la suite m'embauche. Et donc voilà, j'arrive à travailler comme maudiste en étant bien rémunérée dans un super endroit. Mon travail est vu à la télé.
Donc oui, précisons quand même, on était un peu vite sur modiste. Donc c'est faire des chapeaux, c'est les dessiner aussi.
Alors là, oui, c'était les concevoir et les réaliser pour les défilés.
Et Ungaro, donc c'est une marque de vêtements que beaucoup de gens connaissent. Ouais. Donc vous êtes sur votre métier, vous êtes bien payé, vous travaillez pour un nom. Hein, c'est un nom, Ungaro, c'est connu. Vous travaillez avec le meilleur matériel, j'imagine aussi.
Oui.
Mais il y a un problème encore. Bah.
Oui, c'est les conditions de travail.
Alors, c'est quoi ces conditions de travail?
Si on est assez pressé, l'ambiance n'est pas terrible, on se fait insulter.
Insulter, c'est...
Oui, insulter.
Et pressé comme un citron, pas pressé.
Pressé comme un citron, oui. Donc, c'est très éprouvant, c'est très gratifiant et en même temps, c'est très éprouvant psychologiquement.
C'est le milieu de la haute couture, peut-être, qui est comme ça, ouais.
Alors, c'est le milieu de la haute couture. Je tiens à préciser que ce n'est pas comme ça dans toutes les maisons. Et c'est d'une saison à l'autre, ça change aussi. Hein. Mais c'est mon expérience.
Ça s'est présenté comme ça à ce moment-là, ouais.
Voilà.
En même temps, vous avez acquis encore une grande expérience. Vous avez un CV, vous avez un nom.
Oui.
Vous avez fait des chapeaux, vous pouvez les montrer. Non, vous ne pouvez pas les montrer. Vous avez les photos, au moins, j'imagine.
Oui.
Et là, alors, comment on rebondit à partir de là?
Du coup, là, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il vaut mieux, faire un métier qu'on adore dans des conditions abominables ou faire quelque chose qu'on aime moins bien dans des conditions beaucoup plus agréables? Donc, j'ai opté pour la deuxième solution. Je suis partie, j'ai fait un CV assez original et je me suis dit, je vais aller dans le milieu du théâtre. Et j'ai réussi à rentrer comme habilleuse. Donc, c'est vraiment le bas de l'échelle. Mais au départ, les conditions de travail étaient tellement plus satisfaisantes que ça me convenait. Beaucoup moins payé, bien sûr, mais ça n'a jamais été mon moteur.
Oui, enfin, il n'y a pas que ça. Au moins, il y a aussi du savoir-faire en moins.
Il y avait aussi une possibilité d'évoluer, quoi. Il y avait aussi une possibilité de faire autre chose que de l'habillage. Donc, d'accord. Après...
C'est quoi habilleuse, exactement?
Oh ben, habilleuse, c'est celle qui s'occupe d'habiller et d'entretenir le linge des comédiens qui vont sur scène.
Il y a aussi de la couture, là, peut-être ?
Il y a aussi un petit peu de couture, de raccommodage, etc. Oui. Mais rien de folichon.
Donc là, vous rentrez dans le monde du théâtre est aussi un monde du spectacle. Donc, il peut y avoir des pressions aussi, j'imagine.
Donc,
mais là,
d'un
pour
moment,
l'instant, ça vous convient, là, ouais.
Voilà. Au bout d'un moment, elles vont venir après, les pressions.
D'accord. Donc, vous êtes habilleuse pour une compagnie de théâtre ?
Oui.
À Paris, bon, c'est agréable, ouais. Et donc, tout va bien, mais alors, qu'est-ce qui ne va pas ?
Qu'est-ce qui ne va pas ?
Enfin, qu'est-ce qui fait que ça change, ouais ? Qu'est-ce qui fait que vous passez à une étape suivante ? Pourquoi quitter un endroit où, bon, le salaire n'est pas terrible, mais...
Bah, j'ai progressé quand même, j'ai fait des costumes, enfin, je ne suis pas restée que habilleuse, j'ai fait plein de choses différentes dans le théâtre, mais un petit problème pas négligeable, harcèlement sexuel, donc je décide de partir.
Aïe, aïe, ouais, ça c'est énorme. Mais entre-temps, vous êtes devenue costumière aussi ?
Oui, bah du coup, là, je commence à avoir un petit peu de choses à mettre sur mon CV. Et je fais aussi, en partant, je décide de faire une formation d'accessoiriste.
Ah oui. Ça, c'est... Là, ça vaut un petit développement, hein, parce que c'est un métier un peu fabuleux. Ouais. Déjà, cette formation, qu'est-ce qu'on apprend ? Ça dure un an, ouais. Qu'est-ce qu'on apprend
génial.
Comme accessoiriste ?
La meilleure formation que j'ai faite. On apprend tout.
Tout, c'est-à-dire ?
Tout, la soudure, la sculpture, la résine, la patine. On apprend à faire des objets, le bois, le travail du bois, le travail du métal.
Ah oui. Quel genre d'objet ? En plus, c'est des objets inédits, c'est pas des...
Pour être capable de faire tout un tas d'objets différents. Objets, donc c'est accessoiriste théâtre, hein, donc... voilà, c'est pour faire...
C'est tout ce qu'on voit sur une scène de théâtre.
Ce qu'on voit...
Le couteau du crime.
Voilà, une chaise, un faux cheval, une armure.
Ah oui, tout ça, ouais. Ouais, c'est fabuleux, ouais.
Ah, c'était génial.
Mais j'imagine qu'il y a beaucoup de stress aussi, là, parce qu'on n'est pas sûr d'y arriver et les artistes ne sont pas des gens patients, souvent.
Sans commentaire.
Donc, comment ça se passe ? Quel est votre premier poste d'accessoiriste ?
Alors, honnêtement, après, j'ai plutôt continué malgré tout dans le costume, en sachant que dans les petites compagnies, on a souvent besoin de savoir faire plein de choses. Donc, voilà. Donc, je me suis plus diversifiée. Je n'ai pas travaillé que pour une compagnie. Je suis devenue vraiment intermittente du spectacle en travaillant en fonction de ce que je trouvais comme...
Oui, plusieurs compagnies, ouais.
Voilà.
À ce stade-là, avant de passer au stade suivant, qui est intéressant, c'est quand vous quittez Paris, donc vous prenez un gros risque. Ce serait pas mal de revenir sur les grands thèmes de l'émission, qui sont compétences nécessaires, savoir-être nécessaire, plaisir au travail et ce qui fonctionne pas, ce qui aliène les gens d'une façon ou d'une autre. Peut-être un petit bilan sur un métier que moi je vois comme artistique, c'est-à-dire un milieu de pression, forcément.
Hein, oui.
Parce que les artistes sont en compétition permanente avec eux-mêmes et avec tout le monde. Enfin, pas tous, mais quand même, globalement.
Oui.
C'est aussi un métier qui attire beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes hommes ambitieux. Et donc, on peut les jeter, on peut les prendre, on peut les trier.
Exactement.
Donc, ça fait encore de la compétition. Donc, quel est le plaisir d'être là-dedans et quel est le problème et d'abord, quelles sont les compétences mobilisées, savoir-être et après, plaisir et difficultés pour qu'on voit un peu un paysage des endroits où vous avez été, hein.
Bah, le plaisir, c'est on crée, on participe à une aventure qui est assez fabuleuse. Ça devient une petite famille, mais c'est aussi la contrainte du coup. C'est-à-dire que quand on est sur un spectacle, on est sur le spectacle. On n'a plus tellement d'espace pour être ailleurs que sur le spectacle. Donc, on oublie un peu sa vie personnelle. Par contre, quand on veut commencer à avoir une vie de famille à soi, ben, ça devient un peu incompatible.
Vous pensez qu'on ne peut pas avoir un enfant et travailler, faire ce genre de travail ?
Bah, si, il y a des gens qui y arrivent. Après, moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu compliqué. Ce qui est le plus simple, c'est quand les deux sont dans le milieu du spectacle, mais quand il y en a un qui n'est pas et l'autre... Enfin, voilà, c'est pas forcément évident. Puis on est... c'est pareil, c'est des conditions de travail. Quand on travaille beaucoup, tout le temps.
Tout le temps, ah oui ?
Enfin, y a pas tellement d'espace pour autre chose.
En fait, ce que j'ai retenu, moi, c'était soit on travaille tout le temps, soit on cherche du travail.
Exactement. Et quand on ne cherche pas de travail, quand on arrête de travailler, en fait, eh ben, on recherche du travail. Donc, en fait, on travaille quand même tout le temps.
Oui, c'est le syndrome du comédien, ouais, qui
Voilà.
si son téléphone sonne plus, c'est la catastrophe. Et s'il sonne trop, il dit.
Avec l'angoisse de ne pas trouver de travail, avec
Ouais.
de ne pas faire ses heures, enfin tout ça.
C'est peut-être un peu plus calme pour les techniciens, les accessoiristes que les comédiens.
Oui, parce que les contrats en général sont plus longs d'emblée, puisqu'on a besoin de plus de temps pour réaliser ce qu'on a à faire, mais le stress est quand même là aussi. Après, c'est aussi souvent, ben, on a toujours besoin d'un comédien, on n'a pas toujours besoin d'une costumière et
Eh
encore
oui.
moins d'un accessoiriste.
Oui, on peut s'en passer quand les budgets deviennent trop légers. Peut-être un mot sur le statut d'intermittent, quand même, parce que c'est un statut à la fois de travailleur et de chômeur, mais qui, en tout cas,
Moi, je dirais plutôt de travailleur indépendant tout en étant salarié. C'est
oui,
le
c'est ça.
grand
Ok.
avantage pour moi de l'intermittence du spectacle.
C'est-à-dire?
Bah, c'est-à-dire qu'on n'a pas qu'un seul patron, on est à la rigueur, on est presque son propre patron et on travaille, on a des clients. Voilà. Sauf qu'on a quand même un statut de salarié, on a des fiches de paye et donc on cotise au chômage. Et donc quand on n'a pas de travail, c'est les ACDIC qui prennent le relais.
Oui, ça donne une certaine protection,
C'est ça.
peut-être une marge de négociation aussi avec des employeurs qui par
Qui en
ailleurs
abusent,
qui
oui.
pourraient en abuser. Ouais. Enfin, ils abusent aussi du statut d'intermittent d'ailleurs. Ouais.
Les employeurs abusent du statut d'intermittent, pour moi, beaucoup plus que les intermittents abusent du statut. D'ailleurs, ce n'est pas les intermittents qui décident d'être intermittents. Ils travaillent pour des boîtes qui sont affiliées au régime spectacle, pour lesquelles ils cotisent au régime intermittent, enfin au régime spectacle, et c'est comme ça qu'on devient intermittent du spectacle.
Oui. En plus, il faut un nombre de cachets bon,
Ça m'est
assez élevé.
arrivé de travailler pour des boîtes qui n'étaient pas affiliées spectacle et du coup, bah, j'étais pas, du coup, je cotisais aux ACDIC générales et du coup, ça rentrait pas dans mes heures, mais c'est pas moi qui décide.
Oui. D'accord. Bon, là, on voit, vous maîtrisez quand même plusieurs métiers qui tournent tous autour du spectacle, hein, le costume, le modiste, l'accessoire, et l'accessoire qui n'est pas accessoire du tout, d'ailleurs. Et vous, en plus, vous travaillez pour plusieurs compagnies, donc il y a une certaine stabilité, les choses vont bien. Alors pourquoi quitter, pourquoi passer à autre chose, ouais.
Bien parce que j'ai eu un enfant et que dans ma tête, ça a toujours été évident que je n'élèverais pas mon enfant à Paris et j'avais toujours eu envie d'aller habiter au bord de la mer.
D'accord, enfin, ouais, ouais. Alors quand on est à l'activité du théâtre à Paris et puis à Brest, par exemple, c'est pas la même
Oui,
chose, hein.
non, mais je savais que j'allais arrêter de toute façon cette activité et que du coup, il faudrait que je fasse autre chose, que je trouve autre chose, que j'invente autre chose.
D'accord, bah on va y arriver. Donc vous quittez tout ce monde, hein, c'est un monde très particulier, ouais.
Oui.
Et ouais, entre-temps, on peut le dire, vous aviez acheté deux toutes petites maisons
Oui,
dans Paris, même.
dans Paris, deux petites maisons, toutes petites, je précise.
Et toutes petites, mais bon, c'est important de le dire parce que ça va aider pour la suite. Elles sont toutes petites, mais vous avez retapé et grâce. En tout cas, ça se passe au moment de la flambée immobilière.
J'ai acheté au bon moment, j'ai fait les travaux qu'il fallait et résultat, j'ai réussi à multiplier par 4 le prix d'achat à la revente.
Voilà,
Voilà.
donc vous quittez Paris avec on va dire un capital, bon, un capital à la fois de compétences et un capital financier. Et vous arrivez à Brest.
Eh oui.
Donc à Brest, vous achetez une maison, c'est ça, hein? Enfin, il y a eu deux, mais bon, bah, on va en prendre une.
On n'en prend qu'une. On achète une maison
Au bord de la mer.
au bord de la mer.
Même au-dessus de la mer, enfin je l'ai vu la maison, ouais, il y a une vue sur toute la rade, enfin sur l'entrée de la rade, c'est assez fabuleux. Ouais. Et là, il faut travailler. Alors comment vous faites avec toute l'histoire que vous avez, comment vous allez attaquer l'affaire arrivée en Bretagne?
Alors déjà, la maison, je l'achète et je la transforme. Enfin, j'y travaille beaucoup dedans aussi, hein, c'est comme à mon habitude. Et je me rends compte que je peux la louer aussi pour réussir à gagner un peu d'argent.
Oui, parce qu'elle est en face, elle est face à la mer, oui,
Voilà.
ça se loue très très bien, bien sûr. Hein.
Ça se loue assez bien. C'est des contraintes, hein, je prends ça comme un travail.
Oui, et puis vous devez quitter la maison quoi, à
Parce
ce
qu'il faut
moment-là.
quitter la maison à ce moment-là, bien sûr. Donc.
Ok, et vous vous exercez quand même un travail, vous installez à votre compte comme décoratrice d'intérieur.
Alors je fais, oui, comme j'ai refait chez moi, je refais un peu de déco intérieur. On commence à me demander à faire un peu de déco intérieur. Et j'ai un deuxième enfant aussi.
Ce qui fait oui, c'est que, pas rien, ouais, c'est, ça change la donne.
Ça change la donne avec pour moi la priorité qui est de m'épanouir, mais surtout de ne pas oublier que j'ai un enfant pour qui je veux être présente.
Ce qui veut dire que, par rapport à votre travail de décoratrice intérieure,
ben, c'est-à-dire que je ne cherche pas à avoir un travail qui me prenne trop de temps non plus, puisque je veux pouvoir aussi être là pour mes enfants.
D'accord. Donc comment faire alors ? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour tenir ensemble le travail, la famille, les deux enfants ?
Bah, ça se tient tout seul, en fait.
Ça se tient, d'accord. Oui, non, mais économiquement, qu'est-ce que vous passez de décoratrice à vous achetez un atelier, je crois, non, c'est ça ?
Ah oui, c'est après, parce qu'en fait, ma difficulté à moi, c'était de trouver du travail, enfin, trouver des clients. En fait, quand on est à son compte, on a plein de patrons, c'est les clients, il faut les chercher sans arrêt. Et ça, c'était pas évident. Et je réalise que j'avais un rêve depuis très longtemps, c'était d'avoir mon propre lieu, ma boutique, où je pourrais donner des cours et où je pourrais vendre des choses que je faisais. Donc, je décide, puis je me suis dit, l'immobilier, pour l'instant, je ne me suis jamais trompée. J'ai toujours acheté su choisir des bons endroits, etc. Donc, j'achète une boutique dans laquelle je vais lancer mon activité et si ça ne marche pas, faire un investissement immobilier.
Alors, je vais essayer de résumer, là, parce que là, il y a beaucoup de choses.
Oui.
D'une part, deuxième rêve, premier, c'était costumière, enfin, c'était couturière. C'est devenu costumière, puis modiste, puis accessoiriste, donc c'est couturière au carré, je dirais. Et là, deuxième rêve, le lieu, un lieu de création, un lieu d'exposition, un lieu de création, un lieu de formation, c'est ça, hein ?
Oui.
Et tout d'un coup, vous réalisez, alors ça, c'est tout à fait sur une voie parallèle, l'immobilier, finalement, c'est aussi, sans vouloir forcément faire un métier, mais ne serait-ce que louer sa maison, ça rapporte de l'argent. Et investir, donc vous investissez dans un lieu qui à la fois peut être un investissement immobilier et qui en même temps est un lieu de formation et de création. C'est
voilà,
ça.
Il y avait les deux optiques.
Le problème, quand même, c'est qu'à Brest, pour faire de la formation dans le domaine de... Donc, vous faites du relooking de meubles et
les
de la
couture. Les arts manuels, on va dire.
Les arts manuels, on va dire voilà. Ça. Ouais, c'est joli, oui. Eh bien, je sais, puisque j'habite Brest, que ça existe aussi dans des associations où il y a des bénévoles.
C'est ça. On est en concurrence avec tous les bénévoles et tous les centres socio-culturels qui, eux, proposent aussi ce genre d'activité, mais à moindre coût. Donc, pour réussir à en vivre, c'est pas forcément évident.
Donc, finalement, les formations sont insuffisantes pour tirer un salaire complet.
Oui.
Le lieu d'exposition, peut-être ça vaut un petit développement là. Vous avez essayé de travailler avec d'autres artistes.
Oui, mais trop compliqué.
Donc ça, le lieu de formation, le lieu de création et le lieu de vente fonctionne à petit régime, pas suffisant. Comment vous allez faire pour stabiliser un revenu ?
Eh bien, du coup, je repars sur la deuxième option, investissement immobilier. Je mets en location ce lieu et je cherche un autre lieu plus petit qui me coûtera moins cher à fonctionnement et réduire mon activité, enfin l'ambition de mon activité. J'accueille plus personne, je réduis essentiellement aux ateliers. Et
vous accueillez les gens que vous formez, oui.
Voilà.
Donc là, le passage de A à B, c'est il y a un nouveau local qui vous appartient, que vous louez.
Voilà.
Qui
me permet d'avoir un peu de rentrée d'argent. Et puis, il y a là toujours la maison qu'on loue. Et puis, et mon activité, je la vois plus. C'est une activité où je ne perds pas d'argent, mais on ne peut pas vraiment dire que j'en gagne. Mais je gagne énormément en satisfaction et en plaisir psychologique. J'ai l'impression d'être utile. J'aime beaucoup ce que je fais.
Mmh. Et Si on faisait une réflexion à chaud sur des conditions qui seraient meilleures pour développer cette activité de formation dans les arts manuels.
Qu'est-ce que je propose ?
Qu'est-ce qui manque à la ville de Brest ? Je ne sais pas moi, s'il manque quelque chose. Et où pour faire un lieu de création, un lieu d'exposition aussi qui permette de, non pas de faire de l'argent pour exploiter les artistes, mais tout simplement d'en tirer quand même un revenu de façon à vivre avec.
Ben, de sortir de cette économie de travail où on a les mêmes règles que n'importe quelle grosse entreprise et avec une rentabilité à avoir alors qu'on est dans de la formation de plaisir. Enfin, c'est pas la ville de Brest, là, c'est l'économie française qui...
Il faudrait un statut, peut-être
Oui, un statut de créateur ou je ne sais pas.
En
déjà,
Belgique,
juste,
existe,
moi, je pense qu'on devrait avoir au moins... Il y a un revenu minimum pour les salariés qui existe. Et je trouve qu'en tant qu'indépendant, on devrait avoir un revenu minimum avant de commencer à être taxé.
D'accord, mais écoute, c'est un appel. Appel, réflexion politique.
Parce que 25% de 1 euro, ben, il ne reste pas grand-chose.
25% de 1 euro.
C'est-à-dire, même si on ne gagne qu'un euro, on est quand même obligé de donner minimum en tant que statut auto-entrepreneur 25%.
Ah, c'est ce que ça coûte, oui, un auto-entrepreneur.
Oui.
Bon, 25% du chiffre d'affaires.
Pardon ?
25% du chiffre d'affaires.
Du chiffre d'affaires, on est bien d'accord, pas du bénéfice.
Ouais, c'est beaucoup, ouais. Bon, finalement, les choses se tiennent quand même. Vous tenez un équilibre qui vous permet de vivre à Brest, près de la mer, avec deux enfants, en faisant formatrice et en créant des objets que parfois vous vendez. Ouais.
Voilà.
Bah, c'est une forme de travail très intéressante, très compliquée, je trouve, parce qu'il y a plein de choix que vous faites, mais qui fonctionnent. C'est ça qui est intéressant. Et parce que ça fonctionne, on va peut-être essayer, je vais vous demander d'imaginer qu'il y a des jeunes gens, des jeunes femmes, des jeunes hommes qui n'ont pas ont forcément envie de faire costumière, accessoiriste, couturière, etc. Mais qui souhaiteraient aussi, comme vous, garder l'indépendance dans le travail et garder une souplesse et une forme de liberté face à des employeurs. Qu'est-ce que vous pourriez dire à partir de ce que votre parcours vous enseignait ?
Moi, ce que ça m'a enseigné surtout, c'est que j'ai dissocié le travail, hein, je parlerai plus d'activité, de la façon de gagner de l'argent. Et je n'aime pas le terme gagner sa vie, je préfère dire gagner l'argent. Et
Pourquoi pas gagner sa vie ?
Parce que sa vie, on l'a, on est, on vit.
Oui. pas besoin de la gagner, on est là, ok.
Et qu'après tout ça c'est relatif, il y en a qui ont besoin de beaucoup pour se sentir à l'aise, il y en a qui ont besoin de beaucoup moins pour se sentir à l'aise. Enfin voilà, on a besoin d'argent pour vivre, ça c'est...
Oui, c'est pour ça que je parlais d'équilibre économique et pas de salaire.
Voilà. Ouais. Et j'ai juste dissocié ça, il y avait une nécessité, c'est faire rentrer de l'argent, et une deuxième nécessité, c'était de faire quelque chose où j'allais pouvoir m'épanouir, être heureuse, quelque chose qui me correspondait.
D'accord. Moi, je me permets d'ajouter, parce qu'on a un peu préparé l'émission, vous disiez, par rapport aux jeunes, donc, oui. Qu'il faudrait conseiller qu'il y a multiples façons de gagner sa vie sans être une pieuvre, enfin sans avoir 8 mains ou sortir de Polytechnique.
Exactement. Il y a plein de possibles qui existent, une multitude de possibles et qu'il faut les chercher, les inventer. Et
votre deuxième maxime, c'est dès lors qu'on aime ce qu'on fait, c'est ça ?
Dès lors qu'on aime ce qu'on fait.
Ça veut dire qu'il faut beaucoup de détermination, il faut aimer quelque chose.
Oui, c'est...
à 16
ne
ans,
pas abandonner ses rêves et après c'est aussi très personnel hein. Moi j'ai toujours eu du mal à donner mon temps aux autres quand je voyais pas de sens, quand j'avais le sentiment qu'on abusait un peu ou qu'on me pressait etc. c'est ça le monde du travail aussi, c'est...
Ah, mais de plus en plus, mais bon après il y a peut-être des lieux hein, qui sont pas comme ça, mais là où vous êtes passé il y a eu salaire londonien, exploitation au-delà de l'imaginable au Club Med, quand même, finalement.
Oui.
Harcèlement sexuel, ça, c'est dans tous les métiers que ça peut arriver. Et aussi, bon, c'est tout le problème des artistes. Ils vivent dans un milieu où Et même les architectes, par exemple, on parle de charrette, c'est-à-dire on fait bosser les gens pour le rêve.
Oui.
Et ça, faut toujours s'en méfier. Ouais. Donc à ce stade, on voit un parcours hein, depuis Paris jusqu'à Brest, avec plusieurs métiers qui ont été photographe, accessoiriste, costumière, décoratrice, formatrice, lieu d'exposition. Donc on voit, on a bien développé sur les compétences, on n'a pas développé sur le savoir-être. Qu'est-ce que, si vous parliez à des jeunes, quel est le savoir-être de quelqu'un qui voudrait avoir ce type de parcours, pas le même forcément, mais un parcours où il s'offre la possibilité de faire différents boulots dans différents endroits, dans différents milieux.
De se faire confiance.
Oui, ça, il faut de la confiance, c'est sûr.
Il faut de la confiance en soi.
Mais ça ne suffit pas. Quand vous arrivez à Brest, par exemple, quels sont les... Vous arrivez à Brest et personne ne vous attend. Hein. Quel type de savoir-être et de compétences faut-il avoir pour se dire, bon, je vais prendre la ville par ce bout-là, par ce bout-là?
On est d'accord que tout ça s'est fait spontanément, mais c'est je regarde ce que je sais faire, je regarde avec ce que je sais faire, ce que je peux faire, ce que je peux proposer, et
vous vous lancez.
Et je me lance.
C'est ça, c'est peut-être ça qu'il faut. Ouais, pour moi, je vois une capacité d'improvisation.
Oui.
Vous n'êtes pas décoratrice d'intérieur, vous dites bon, moi je sais faire ça, donc ici c'est ce qui se présente, je vais le faire. Je suis pas, j'ai jamais fait d'exposition, mais bon, avec un lieu, on peut. Donc, vous essayez. Bon, ça n'a pas marché, par contre, cette fois-là.
Non, parce que toutes les expériences ne sont pas des réussites, forcément. Mais c'est pas. Après, ça s'ajuste. Justement, par exemple, cette expérience de première boutique, d'exposition, ça demandait un temps de travail, de présence tellement grand. Je me suis dit, c'est pas à mon âge que je vais rentrer dans une activité qui va me demander autant de temps, autant d'énergie. Donc, j'ai réduit la voilure, mais c'est de l'adaptation continuelle.
Oui, c'est ça, ouais. Je crois que c'est la première qualité. Ouais. C'est accepter l'expérience inconnue, en fait, aussi.
Accepter l'expérience inconnue, accepter l'échec.
Et l'échec qui va avec, parce que quand on est dans l'inconnu, on se plante, et des fois, au contraire, on réussit.
Ouais, et des fois, on réussit. Et
donc, si on rate d'un côté, on va réussir de l'autre.
Exactement.
Voilà, c'est un optimisme, en fait, aussi, assez fort.
Oui.
Peut-être on va finir sur... on va décrire votre lieu quand même, parce que bon, moi j'y étais, il est intéressant, et une page publicitaire gratos sur... décrivez votre lieu, ce que vous proposez, et ce que vous y proposez, ouais, même les horaires carrément. Ouais.
Je propose donc des cours de couture ou de relooking de meubles. L'idée au départ, c'est surtout de venir faire... Je vous aide à venir faire ce que vous avez envie de faire, du moment que c'est une activité manuelle.
C'est ça, ça va au-delà du...
Ça va au-delà de la couture et du relooking de meubles.
Je précise, tout à l'heure, on m'avait aidé à enlever 4 rivets accrochés à un mât de bateau. Et...
Voilà, disons que j'étais un champ de compétences dans les métiers manuels assez large, assez vaste. Et le plaisir qu'on retire quand on réussit à faire quelque chose soi-même est innommable.
Ouais, innommable, c'est pas...
Non, je peux pas.
On
oui,
peut pas le nommer,
que...
ouais, parce c'est que ça. C'est. Vous avez un site web ou des horaires à donner, peut-être?
C'est sur rendez-vous. J'ai pas
d'horaire.
J'ai plus d'horaire. C'est sur rendez-vous. J'ai un site web. Ça s'appelle La Fabrique avec un K des possibles à Brest.
Bien. Ben donc, bienvenue à la Fabrique des possibles. C'est rue
Anatole France, au 228.
Voilà, dans le quartier des Quatre Moulins. Eh bien, merci beaucoup, Marie.
De rien, c'est un plaisir.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Prochain portrait, prochaine histoire, prochain métier, au prochain numéro de Un bon boulot. Témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail.